Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bonjour et bienvenue dans L'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes, des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Raphaël Larder de l'équipe Podcastine.
Il est possible de redonner une seconde vie aux vieux vêtements, aux nappes rétro, aux médaillons désuets et aux rideaux de vos grands-mères. Les motifs à fleurs des années 80 et les chemises en jean reviennent à la mode grâce à la technique dite de l'upcycling, en français surcyclage, qui signifie littéralement recycler par le haut. À Bordeaux, le phénomène gagne du terrain. Les créatrices sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans des boutiques indépendantes. Elles utilisent donc des objets du siècle précédent pour les magnifier et les revendre. Une démarche éco-responsable car la majorité des créatrices travaillent en circuit court. Les matières premières sont dénichées dans la même ville où elles sont transformées puis revendues. En 2021, la moitié des Français auraient déjà acheté des habits contenant des parties recyclées selon une enquête du ministère de la Transition écologique. L'industrie du textile est en fait hyper polluante. Elle est responsable de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon les données d'Oxfam et de Novetic, 4 millions de tonnes de déchets vestimentaires sont jetées chaque année en Europe. Les vêtements sont portés 7 à 10 fois, tout au plus, et une benne en est jetée chaque seconde dans le monde. Dans la boutique Blue Madden, située dans l'hypercentre de Bordeaux, c'est ce combat contre la fast fashion qui a tout de suite convaincu Mathilde Miland. Derrière son comptoir, en bois, où elle accueille les clients, sept créatrices se sont installées moyennant un loyer. Des tréteaux quadrillent l'atelier, les machines à coudre, les ciseaux et les bombes de peinture sont posées dessus. La majorité des pièces réalisées dans cet atelier un peu bohème sont ensuite vendues directement dans la boutique.
Blue Madden, en fait, c'est un lieu hybride où on vend des pièces vintage et des pièces de créateurs. Et donc on propose également des pièces qu'on appelle upcyclées, c'est-à-dire qu'on va retravailler de l'occasion pour refaire des vêtements neufs. Pourquoi c'était important ? Moi j'ai démarré avec le vintage, donc c'est la friperie, c'est-à-dire le vêtement d'occasion ancien. Et en fait je trouvais ça assez génial que des créateurs arrivent à s'emparer de pièces d'occasion qui parfois ont des petites taches, des petits défauts, et en refassent un bel objet ou un beau vêtement neuf en ajoutant une touche d'originalité. Et surtout, je trouve que ça permet d'éviter tout simplement de jeter ce vêtement-là.
Depuis 7 ans, la quarantenaire expose des artisanes et des artistes, comme elle aime à les appeler. Sur les cintres, les créations de Charlène Perret détonnent. Avant de lancer sa marque en 2019, Rinvest, elle travaillait à Kiabi, mais très vite le système la dégoûte. Elle dénonce la surproduction, la surconsommation et une logique de rentabilité folle. Avant le Covid, elle jette donc ce domaine et devient créatrice. Sa spécialité, des vestes en jean retravaillées, remises au goût du jour.
Je récupère des chutes de tissu ou des vêtements pour en refaire des nouveaux vêtements embellis, on va dire. Donc ça, par exemple, c'est une veste en jean bleu clair que j'ai entièrement retravaillée en incrustant des empiècements de tissu. Donc c'est des tweeds roses et bleus. Voilà, donc ils sont entièrement cousu à la main. Donc là, il y a vraiment une recherche de design en fonction des tissus que je peux de ce que je peux trouver.
Combien d'heures de travail à peu près ?
Alors ça, on est sur une demi-journée, je pense. D'accord. Ouais, une demi-journée. Après, il faut trouver la veste également, et puis la nettoyer, la restaurer si elle peut être abîmée. Et après, trouver les tissus que je peux mettre dessus, les couleurs qui vont bien, etc.
Et vous vendez ça à 69 euros ?
Et ça, je vends ça à 69 euros. Je la trouve soit dans les brocantes, dans les Emmaüs, sur Vinted également. Enfin voilà, il y a une grosse recherche comme ça que je peux faire. Et c'est souvent de la pièce unique, j'achète pas par lot. Donc voilà, ça peut me prendre un petit peu de temps.
Pour présenter ces pièces, il est affiché sur une petite pancarte modeuse engagée. Charlène Perret doit souvent faire de la pédagogie auprès du public pour justifier ses prix. Les sweats et les pulls sont vendus entre 50 et 80 euros. C'est plus cher qu'en fast fashion.
quand ils viennent et quand ils voient par exemple le corner, on leur explique que ça a été fabriqué à l'atelier, qu'il y a des valeurs derrière ces vêtements, qu'il y a une recherche qui a été faite. Et justement, je pense que ce qui est intéressant par exemple par rapport à quelqu'un qui achète un vêtement dans une marque de fast fashion, c'est qu'il va l'acheter, il va le porter deux, trois fois, il va le jeter, il va essayer d'en chercher une autre. Alors que là, ils viennent pour une pièce, ils mettent un petit peu de prix, mais ils vont la garder et cette pièce va être voilà, un peu une valeur ajoutée. Et c'est ça qui est intéressant. On a été habitué à des prix très bas et je pense qu'il y a toujours un budget. Mais maintenant, on va se dire, bon, ok, je m'achète une jolie pièce par mois plutôt que de m'acheter 3-4 t-shirts dans le mois. Je pense qu'il y a on va plutôt consommer raisonnablement plutôt que de vouloir acheter en quantité.
Un engagement que partage Mathilde Miland, la gérante de Blue Madone.
Moi, il me semble que le problème, c'est pas tant combien aujourd'hui un créateur français qui fabrique à la main vend sa pièce, parce que lui, il va forcément le calculer au mieux pour lui par rapport à ses charges et au temps qu'il va y passer. Pour moi, le problème aujourd'hui, c'est plus la perception qu'on a des prix du vêtement. Parce qu'avec l'arrivée de la fast fashion, et on le voit aujourd'hui, on arrive à des extrêmes avec des gros comme Shein, etc. On est complètement déconnecté de combien ça coûte vraiment de fabriquer un vêtement. Parce que quand tu achètes un t-shirt ou une chemise à 5-10 euros, à l'autre bout de la planète, c'est forcément pas possible en fait en France de fabriquer à ces coûts-là. Et moi, c'est en ça que je fais de la pédagogie aussi avec les clients. S'ils disent « Ah, ben, ça a l'air un peu cher », je dis « Oui, mais regardez, l'artisan, il travaille juste derrière. Donc déjà, vous savez où c'est fait. Il a passé tant d'heures sur ce vêtement-là. Donc forcément, lui, s'il veut se rémunérer comme quelqu'un de normal, on ne parle pas, personne ici roule en Porsche dans l'atelier encore, c'est qu'il a besoin de le vendre à ce prix-là. Mmh. Voilà.
Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites rafleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue, des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons.
Sur les étagères de la boutique, Caroline de Valentine Bijoux expose elle aussi ses médaillons. Elle en a fait des boucles d'oreilles, il y a des petits dauphins, des vierges Marie plaquées or ou des formes plus contemporaines. Aucune paire ne se ressemble, elles sont toutes dépareillées.
Donc moi, je chine en fait chaque pièce, donc soit en brocante, soit en vide-grenier. Voilà, je fais un petit peu toutes les brocantes de la région parce que donc c'est une marque avec des petits médaillons, des petites breloques, voilà, en différentes matières, plaquées, les tons dorés, mais tout est vintage en fait. Voilà, tout est chiné en brocante et ce sont que des médaillons vraiment anciens.
Là aussi, les créoles sont beaucoup plus chères par rapport au prix pratiqué dans les magasins de grande distribution.
Alors, dans la fast fashion, ça vaut pas très cher. Hein. Si on va dans les magasins, je sais pas, bon, là, qui est à rue Sainte-Catherine, par exemple, vous allez trouver des paires peut-être à 7 euros, 7-8 euros, quoi, pour quelque chose bon, qui n'est pas du tout de la matière que moi, je travaille. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup, par exemple, de médaillons en plaqué or ou en tout cas avec un joli plaquage de bonne qualité qui sont anciens et qui sont encore aujourd'hui, vous voyez, en très bon état. Donc, ça veut dire qu'ils ont passé quand même des années sans être nettoyés ni rien, mais qui sont toujours très brillants, etc. Bon, que j'ai beaucoup nettoyé. Oui, moi je justifie mes prix parce que j'y passe du temps dessus. Je critique pas les prix, je trouve ça normal de vendre des choses qui ont été travaillées, repensées, remaniées. Un petit peu plus cher, c'est tout à fait normal. Faut savoir que dans la fast fashion, c'est créé à l'autre bout du monde, par des gens qui sont mal payés, par des fois des enfants. Donc c'est un petit peu normal de aujourd'hui, voilà, d'avoir des prix un petit peu plus chers, un petit peu plus excessifs.
En fait, l'upcycling, ça a toujours existé, mais sous d'autres formes. En Europe, la première fois que l'on a entendu ce terme, c'est en 1994. Lors d'une interview, un ancien ingénieur allemand, Rainer Pilzer, oppose le downcycling à l'upcycling. On fracasse des briques, on fracasse tout. Ce dont nous avons besoin, c'est l'upcycling pour ajouter de la valeur à des produits usagés, pas leur en donner moins, disait-il à l'époque. Bertrand Larratte est enseignant-chercheur à l'Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux. Il collabore souvent avec des sociétés de l'Union européenne ou de France. Avec des économistes, il repense à la manière dont on améliore ou réemploie des outils pour leur donner une seconde vie. Pour lui, le terme de l'upcycling, c'est un effet de mode.
Donc en fait, la définition qu'on pourrait donner pour moi, upcycling, comme on le voit, comme on utilise le terme aujourd'hui, ça peut se référer à du remanufacturing. Je refais quelque chose avec quelqu'un qui avec quelque chose qui existait déjà. Donc c'est le terme aujourd'hui nouveau, c'est upcycling. On aime bien inventer des nouveaux termes, mais des termes plus anciens, on va retrouver le remanufacturing. Alors je ne saurais pas comment directement le traduire en français, mais c'est pas du réusage, c'est une remise à niveau, on va dire, d'un produit qui existait déjà et puis qu'on remet sur le marché. Parmi les plus vieux exemples qu'on peut trouver, c'est les pneus de camion qu'on va rechapper, par exemple. C'est du upcycling, hein, finalement. On remet du caoutchouc autour du pneu, ça coûte très très cher, les pneus de poids lourds. Donc voilà. Et pour moi, le terme à utiliser, et j'utilise toujours ce terme-là d'ailleurs, c'est remanufacturing. On remet à niveau un produit.
Le soleil.
Pour l'ingénieur, les sociétés ont toujours utilisé les déchets et des matières premières pour construire à nouveau.
Pour moi, il y a eu une perte à un moment donné, parce qu'on a toujours, l'homme a toujours, depuis plusieurs centaines d'années, toujours réutilisé beaucoup de choses. Seulement, il y a une centaine d'années, avec les nouvelles technologies, on est devenu plus indépendant, on pensait que les ressources étaient limitées, c'est à ce moment-là qu'on a plus consommé du neuf, et surtout période d'après-guerre aussi, où les 30 Glorieuses, on se souciait de rien du tout à ce moment-là. Mais moi, mon avis, c'est qu'on a toujours réutilisé quelque chose. Un exemple qui est assez flagrant, c'est que dans toutes les vieilles villes de France, les bâtiments, on les mettait par terre pour reconstruire par-dessus. Avec la notion de patrimoine, aujourd'hui, on ne fait plus vraiment ça. La Bastille est sous terre, puis c'est les maisons aux alentours de la Bastille. Hein. C'est pas nouveau, quoi.
Pourquoi, après les 30 Glorieuses, se soucie-t-on aujourd'hui d'où viennent les produits ? Bertrand Larratte souligne, lui, l'effet des crises que nous traversons actuellement pour repenser la manière de produire.
Après, ce qui peut changer, effectivement, ce sont des crises. Plutôt, aujourd'hui, on a une crise énergétique. On voit une crise sur certains matériaux, minéraux, parce qu'on se fournissait dans d'autres pays. Et il y a forcément des mouvances qui se créent de plus en plus fortes. Aussi des mouvances liées aux problématiques environnementales. Aujourd'hui, ça grossit très très fort. Mais c'est toujours, et c'est bien souvent un phénomène de crise qui génère ça. Donc une crise énergétique, une crise environnementale, une crise économique qui me dit, en fait, on faisait tout ici. Et puis maintenant, donc on revient un peu à cet essentiel. Donc on en arrive à une forme de limite de notre modèle de consommation. Alors peut-être qu'il aurait fonctionné très bien s'il n'y avait pas autant de conflits, s'il y avait une notion de partage, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'on revient de plus en plus à ça, parce qu'il y a un phénomène, alors pas que de mode, alors il y a forcément des opportunistes qui se disent « il y a un phénomène de mode, je me mets sur ce créneau-là », alors qu'il n'y a pas forcément de crise sur ce domaine-là. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais il y a forcément des opportunistes qui vont aller dans ce sens. Ouais.
Loin d'être un effet de mode, la tendance de l'upcycling va s'amplifier, mais peut-être pas sous le même terme.
Il va durer, mais peut-être pas sous ce même nom. Comme je disais, il y a quelques années, on appelait ça du remanufacturing, pour moi. Le upcycling, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui. Pour moi, ça va forcément durer, pour une raison simple aussi, c'est que on a de moins en moins de ressources, ou du moins, les ressources peuvent coûter de plus en plus cher. Donc forcément, on va les piocher dans ce qui existe déjà. que ce soit dans les métaux, dans le textile ou autre. Aujourd'hui, moi, je pense que entre relocalisation plus, on va dire, un meilleur tri de nos déchets qui fait qu'on va pouvoir réutiliser au plus proche de la source, ça peut que aller dans ce sens, à mon avis.
À Bordeaux, l'upcycling ne touche pas seulement le domaine textile. D'autres créateurs et créatrices fabriquent des meubles, des vélos et même des potagers. Ces initiatives répondent aux enjeux imposés par le dérèglement climatique, circuit court, revalorisation des déchets et produits durables. Mais encore faudrait-il que le phénomène touche le plus grand nombre, avec un vrai changement des mentalités. L'upcycling pousse donc à acheter moins mais mieux, à rebours du système de surconsommation.
Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bouillot, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.